La semaine dernière, j'ai eu l'envie de regarder la saga Fast and Furious parce que je ne l'avais jamais vue. Enfin, de base, je voulais voir uniquement le 7 parce qu'il est réalisé par James Wan, qui a aussi fait Insidious et qui est mon film d'horreur préféré. Mais je me suis dit que commencer par le 7, ça allait pas être très intelligent parce que j'allais rien comprendre. Donc j'ai voulu commencer par le 5 parce qu'il signe l'arrivée de Dwayne Johnson, qui est un ancien catcheur reconverti en acteur et que j'aime bien voir au cinéma. Mais là encore, ça allait être un peu incompréhensible pour moi. Du coup, bah, j'ai demandé à des gens sur Twitter si c'était OK de commencer par le 4. Parce que d'après ce que j'ai compris, Marc a une sorte de nouveau commencement dans la saga. Mais comme j'ai compris aucune de leurs explications, j'ai finalement décidé de regarder l'intégralité de la saga. Parce que j'avais que ça à faire de mes week-ends. Donc samedi et dimanche, je me suis regardé les 5 premiers films, enfin sauf le 3, puisque d'après ce que j'ai compris, le 3 est à part. C'est assez,
Merci pour ta clarté.
assez bordélique. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et à l'heure où j'écris cette chronique, j'attends encore de voir les autres. Donc avant de commencer le visionnage des films, je vous avoue que je m'attendais à avoir une franchise bien beauf, avec de l'action gratuite, des images racoleuses, avec beaucoup de femmes objets, donc pas très importantes au scénario. Scénario qui d'ailleurs est en mousse, avec des personnages insipides et une overdose de bagnole mal filmée. Et bah purée, pour pas être vulgaire, j'étais très loin du compte. C'est de l'action qui est bizarrement assez intelligente, qui gagne en grandiose en plus au fil des épisodes, sublimée par une mise en scène qui arrive à être intelligente et lisible, avec des personnages attachants et un humour qui est loin d'être beauf, même pas si présent qu'on pourrait le croire. Mais alors pourquoi les films portent ces préjugés? Sont-ils les seuls à se traîner une sale image? Non. Parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent cette image, et ce, à cause de l'élitisme. Qu'est-ce que l'élitisme? Pourquoi des gens le pratiquent? Et y a-t-il une limite à cet élitisme? Tant de questions qui trouveront peut-être une réponse dans cette nouvelle séance du Quiché Choral, présentée par moi, Céleste. Donc une petite définition de l'élitisme pour commencer. Selon le dictionnaire Le Robert, très sérieux dictionnaire, l'élitisme est le fait de favoriser une élite aux dépens de la masse. Dans le cadre du cinéma, c'est le fait de considérer des films comme objectivement meilleurs que d'autres. Les films souvent meilleurs sont considérés des films d'auteur, donc des films souvent indépendants, faits par des réalisateurs qui ne sont pas contrôlés par les studios, en opposition aux gros blockbusters qui sont forcément moins bien et qui sont du coup rabaissés par ces gens. Je n'ai évidemment que de l'antipathie pour ces gens-là, parce que je trouve que c'est pas normal de rabaisser des films, tout le monde a le droit de regarder ce qu'il veut. Mais on va tenter de comprendre ce qui motive ces personnes à mépriser tout un pan du cinéma. Sachez que pour écrire cette chronique, j'ai dû me taper une dizaine de vidéos ainsi qu'une trentaine d'articles au ton condescendant. C'est donc sous le coup d'une colère teintée d'une tension palpable que j'écris les mots de cette chronique. Commençons par le plus évident. Le cinéphile élitiste de base a fait des études de cinéma. Attention, je ne dis pas tous qu'ils sont comme ça. Mais beaucoup ont cette particularité. Ces études leur ont permis de connaître les origines du cinéma et les mouvements importants qu'il compose. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de personnes porter au nu la Nouvelle Vague, qui est un mouvement français qui a un peu révolutionné le cinéma et qui s'est fait remplacer par le Nouvel Hollywood de Spielberg. Ces études ont également permis à ces gens de connaître les spécificités de la réalisation, donc tout ce qui est différents plans, mouvements de caméra, etc. Attention, ce n'est pas parce que vous avez fait des études de cinéma que vous êtes forcément un cinéphile élitiste que je n'aime pas. Moi-même, j'en ai fait et j'accepte tout type de cinéma parce que je suis français très sympa et modeste aussi.
Not all étudiant.
Hashtag not all étudiant en cinéma, effectivement. Donc les élitistes, comme expliqué dans les définitions, sont à la recherche d'une sorte d'élite qui pourrait les faire sentir supérieurs. Alors, je ne suis pas là pour effectuer un profil psychologique, là n'est pas le but de la chronique. Les chroniques psychologiques, c'est Nicolas, le mercredi, une semaine sur deux, dans l'heure est curieuse. Moi, je parle de cinéma, et c'est ce qu'on va faire. Vous l'avez deviné, c'est lors des petits exemples pratiques. Aujourd'hui, les films choisis seront d'une part des films considérés comme bons par des cinéphiles élitistes, et d'autres comme mauvais. Commençons donc par les bons films. Pour faire ces exemples, j'ai cherché sur des sites prestigieux de critique cinéma, du genre les cahiers de cinéma, parce que dans le genre élitiste, ça se pose très haut. Le premier est un film issu de la Nouvelle Vague, il s'agit d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Donc c'est un film qui parle d'un voyou, joué par Jean-Paul Belmondo, qui vole une voiture à Marseille pour se rendre à Paris. Lors d'un contrôle, il tue un policier qui voulait le verbaliser, et à Paris, il retrouve une étudiante américaine jouée par Jeanne Seberg, avec qui il a une liaison. Tout ça, ça a du sens et ce sera développé au cours du film. Donc c'est un film emblématique de la nouvelle vague, avec ses thématiques très terre-à-terre et sa réalisation novatrice. Aujourd'hui, on a beaucoup de ça dans le film français, mais là, c'était les prémices de ce qu'on a aujourd'hui. Avec ce film, Godard a réussi à imposer un modèle de narration et une façon d'utiliser le montage qui est encore utilisé aujourd'hui. C'est un film qui est assez honnête dans sa volonté. Par là, j'entends qu'il ne cherche pas à en faire trop avec des plans vraiment sans fioritures, bien cadrés comme il faut, et une utilisation parfaite des couleurs. Étant donné que le film est en noir et blanc, ça aide un peu. Et les dialogues de Godard, qui ne sont aujourd'hui plus approuvés, arrivent à sublimer les scènes, portées par deux acteurs qui sont vraiment très bons. Vous l'aurez compris, j'arrive à être en accord avec les cinéphiles pointus car j'aime ce film, et parce que je l'ai étudié moi-même en cinéma. Je suis à reconnaître ses qualités, tout comme le film suivant, qui s'appelle The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson, et qui est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti il y a moins de 10 ans. Là encore, on a affaire à un film acclamé par les critiques presse. Et pour cause, cette fable d'aventure, couplée à de la comédie absurde, sait nous emporter dans l'histoire du concierge de l'hôtel, M. Gustave, prenant un jeune réfugié politique sous son aile et l'engage en tant que groom. Le film est vraiment beau. Wes Anderson, qui est assez habitué au plan millimétré, puisqu'il y en a absolument partout dans sa filmo, ne déroge pas à sa règle puisque The Grand Budapest Hotel est rempli de plans au cadrage parfait, aux lignes omniprésentes, parcourant le cadre, construit dans les moindres détails, c'est vraiment juste parfait. Et c'est un peu trop parfait à mon goût. Le problème d'un film parfait et aimé de tous, c'est qu'il n'y a rien à dire. Discuter de ce genre de long métrage apporte le fait que peu importe avec qui tu en parles, tu ne rencontreras aucune opposition. Donc la discussion s'arrête assez rapidement. Oui, je discute cinéma avec mes amis, et oui, ça les saoule un peu, parce que c'est mon principal sujet de discussion. Alors que les mauvais films, il y a matière à discuter. C'est pas pour rien que beaucoup aiment les nanars. Petit aparté à ce sujet, les nanars sont des mauvais films, de très mauvais films, mal réalisés, mal écrits, mal joués, avec des effets spéciaux atroces. Mais contrairement aux navets, comme Pirates des Caraïbes 5, les nanars sont si mauvais qu'ils en deviennent bien et intéressants à voir. Et c'est le cas de Troll 2. Troll 2 est un film américano-italien réalisé par Drake Floyd, pseudonyme qui cache en réalité un italien du nom de Claudio Fragasso, et le film est un vrai bordel scénaristique. Mais je vais essayer de vous résumer le pitch. Alors, ça raconte l'histoire de Joshua Waits, fils cadet de la famille Waits, qui, avec ses parents et sa grande sœur, vont en vacances dans la ville de Nilbog. Sauf qu'ils vont se rendre compte que la ville est infestée de créatures appelées goblins, car Nilbog à l'envers ça fait goblin, c'est subtil, qui sont de petits êtres aux pieds touffus et aux dents pointues, une sorte de version maléfique des hobbits. Ces goblins veulent faire manger une sorte de plante verte à la chlorophylle à la famille, pour qu'ainsi ils se transforment en êtres mi-homme, mi-plante, comme ça les goblins peuvent les manger parce qu'ils sont végétariens. Ah et aussi, il y a une reine humaine de goblins qui dirige toute cette petite armée. Il y a aussi un scénario secondaire avec le petit ami de la sœur de Josh qui se retrouve près de Nilbog, donc encerclé par les goblins. Et on a aussi des fois le fantôme du grand-père de Josh qui vient faire des petits coucous de temps en temps. Et ça, c'est juste le début du film. Alors déjà, avant toute chose, je vous conseille grandement le visionnage de ce film, bien plus que ceux dont je vais parler au cours de cette chronique, parce que c'est une expérience absolument fabuleuse à vivre. Ne serait-ce que pour les costumes des goblins qui sont vraiment incroyables. Les acteurs ne sont même pas des acteurs, puis d'ailleurs le père est joué par un mec qui est dentiste dans la vraie vie. Il y a des faux raccords absolument partout, il y a des reflets de l'équipe technique de temps en temps. On a toute une myriade d'erreurs qui font le charme de ce genre de film, si bien qu'un seul visionnage ne suffit pas pour repérer les erreurs. On est bien loin des films absolument parfaits et sans fioritures portés en messie, donc ce serait un mauvais film? Eh bien, si on en croit les critiques et les notes données au film, oui. Et si on en croit le fait que la définition d'un film c'est quelque chose qui soit vraiment parfait, oui ce sera un mauvais film. Mais est-ce que ce serait vraiment un mauvais film? Gardez cette question en tête car on reviendra un peu dans la conclusion. D'abord je voudrais parler d'un autre type de film conspué, les blockbusters. Ah, les blockbusters. Ils ont été le symbole du déclin de la nouvelle vague avec le Star Wars de George Lucas et surtout Steven Spielberg. Avant on allait au cinéma pour voir du cinéma français, du cinéma d'auteur, ou les quelques gros films hollywoodiens du genre Ben-Hur, Spartacus ou Chantons sous la pluie. Mais aujourd'hui, et ce grâce au nouvel Hollywood de Spielberg, on en voit un très grand nombre de films à gros budget au cinéma, avec souvent beaucoup d'effets spéciaux, et vendus à grands coups de bandes annonces explosives et de campagnes marketing parfois un peu abusives. Et rien ne représente plus ça que la franchise des Fast and Furious, et oui, on y revient, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une franchise, donc ça compte beaucoup de films, aujourd'hui il y en a 8 qui sont sortis, un 9e est en préparation, il y a eu aussi un spin-off, et tout ça a remporté un box-office qui avoisine à peu près les 6 milliards. On ajoute à ça un casting composé d'un beau gosse blond, un mec au gros bras qui n'a pas un très grand éventail d'émotions, une actrice habituée au rôle de femme badass qui casse tout, un ancien catcheur qui s'est reconverti dans le cinéma, et le reste du casting qui respecte la diversité ethnique, ce qui est assez rare pour le souligner, surtout pour une franchise qui a débuté en 2001. On saupoudre d'une action avec des scènes qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes, des explosions festives, un scénario pas franchement poussé, une grande emphase sur les bagnoles, et une musique pas très marquante. On a l'antithèse de tout ce qu'un bon cinéphile, entre guillemets, déteste. Et pourtant, rejeter cette franchise, comme rejeter toute autre franchise de cinéma, c'est passer à côté de choses intéressantes, comme la façon de filmer de Justin Lin pour le 6e épisode, qui arrive à rendre l'action grandiose et intéressante visuellement, et surtout très peu racoleuse. C'est pour ça qu'il faut pas laisser tomber les franchises comme par exemple Indiana Jones, réalisé par Spielberg, qui n'a aujourd'hui plus rien à prouver. Le rejet de ce genre de film vient parfois du classisme dont certains font preuve. Je m'explique. Le classisme est une discrimination basée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale. Les personnes élitistes usent de ça pour renier les films qui sont appréciés par des gens qui ne vont pas forcément au cinéma pour réfléchir, mais pour passer un bon moment. Pour les élitistes, le cinéma doit être intellectuel, il doit être intelligent, il doit fournir quelque chose. Un film sur des bagnoles ne peut forcément pas être intellectuel, hein. Car ils associent ça aux jeunes des rues. Évidemment, je fais beaucoup de raccourcis, mais c'est ce qu'ils pensent, eux. Et ça marche pour n'importe quel autre blockbuster, du genre super-héroïque, catastrophe ou film d'horreur. Donc à moins d'être Spielberg, qui lui a déjà fait ses preuves, Nolan avec ses blockbusters au scénario beaucoup trop complexe, ou Miyazaki avec ses thématiques adultes, très peu ont la chance de se faire aimer par les personnes élitistes. Tout ça parce que, selon eux, ils ne font pas de bons films. Mais les bons films et les mauvais films, selon moi, n'existent pas. Et ce sera ma conclusion d'aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve qu'il est idiot de faire preuve d'élitisme. Les bons ou les mauvais films, comme beaucoup de choses, font partie un peu d'une construction sociale. Tout dépend de ce qu'on définit comme bon ou mauvais. Par exemple, pour moi, un bon film dépend de la façon qu'a le réalisateur de montrer ce qu'il se passe, que ce soit par le biais de jolis plans séquences, de plans d'ensemble ou de gros plans, avec un rythme qui saurait garder mon attention pendant au moins 2 heures. Un mauvais film serait pour moi quelque chose d'irregardable ou de trop lent. Et toi, Annie, t'en penses quoi ?
Je pense qu'il y a tellement de questions qui s'ouvrent, mais bon, je vais juste réfléchir à qu'est-ce que c'est un bon film. Pour moi, c'est un film où tout n'est pas évident d'avance. Tu vois, si je regarde un film où je me dis « Ok, ça, je me doutais que ça arriverait, ça, je m'en doutais aussi, ça, c'est complètement attendu, c'est un mauvais film. »
Ouais, t'aimes qu'on te surprenne, quoi.
Bah, si tout est très fléché d'avance, oui, ou trop signalé, oui, je crois qu'il y a quand même des mauvais films, ouais.
Comme quoi, on a tous une vision différente. Donc au fond, l'élitisme n'a pas lieu d'être. Parce que tant qu'il y a du cinéma pour tout le monde et des gens pour apprécier des choses qu'on aime ou d'autres, et d'autres qu'on n'aime pas forcément, c'est intéressant. C'est pour ça, et j'y reviens, que Troll 2 n'est pas forcément un mauvais film. Tout dépend de la définition qu'on s'en fait. Si ta définition d'un bon film, c'est quelque chose qui te fait passer un bon moment, peu importe la qualité du truc, eh bien Troll 2 peut être un bon film, tout en étant un mauvais film. C'est cette classification qui est propre à soi. Donc avant de vous laisser, je vous conseille quand même The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, À bout de souffle de Jean-Luc Godard, la franchise des Fast and Furious si vous aimez l'action grandiose, et bien sûr Troll 2 de Drake Floyd, le documentaire sur le film Best Worst Movie qui est très intéressant aussi, ainsi que l'excellente vidéo de Karim Debbache dans sa série Chroma qui est sur le sujet. Tous les liens sont évidemment avec le podcast sur le site, oui.
Et Best Worst Movie, ça veut dire meilleur pire film.
Voilà.
Pour vous donner une idée.
D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, voyez des films, quels qu'ils soient, et ne laissez personne vous dire que vous ne regardez pas des bons films. Je vous laisse avec Dino Disco Laser de Gilles Sella, qui fait partie de la bande de Karim Debbache dans l'émission Chroma. La séance est levée.